Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, mais vous aimez Ciné Plus, ça tombe bien. Coucou, nous revoilou avec Stéphane aux commandes et moi-même derrière le micro. Alors aujourd'hui, je vous parle de Fritz Lang. Alors là aussi, pourquoi ? Bah, de toute façon, mes choix sont toujours arbitraires, donc il n'y a aucun problème, j'assume. Mais c'est surtout parce que avant-hier soir, nous avons vu Le diabolique docteur Mabuse de Fritz Lang. Et c'est quand même incroyable parce que c'est un film qui date, d'ailleurs, je ne sais pas de quelle année, mais enfin, peu importe, je crois que c'était 40... Écoutez, non, voilà, je ne sais pas. Peut-être que ça me reviendra, j'ai dû le noter quelque part, là je ne les ai pas sous mes yeux. Mais c'est incroyable de voir la modernité. Oui, non, c'est un film relativement récent, ça y est, ça me revient. C'est un film de 1960. Il hésitait d'ailleurs un petit peu à faire ce film parce qu'il avait fait d'autres films sur le docteur Mabuse, il l'avait fait mourir. Mais là, il a repris l'idée d'un docteur Cornelius qui vivait un peu comme Mabuse. Enfin bon, eh bien, c'est un film qu'il a d'ailleurs tourné un petit peu comme il avait tourné M. le Maudit, enfin ses fameux chefs-d'œuvre. Alors c'est vrai d'ailleurs, quand il est sorti en 1960, les gens ont trouvé que ce film avait un côté un petit peu vieillot. Eh bien écoutez, je pense que ce film, il est comme une bonne bouteille de vin. Les années passent et il se bonifie en vieillissant, parce que très honnêtement, j'ai trouvé que c'était d'une efficacité assez incroyable. C'était vraiment un vrai bonheur de regarder ce film. Alors bref, donc c'est l'occasion pour moi de vous reparler de dans ce Ciné Plus, de ce réalisateur reconnu, il faut bien le reconnaître, comme un des meilleurs, évidemment. Alors, j'ai déjà parlé de lui, notamment lorsque j'avais parlé sur ces mêmes ondes du Mépris de Godard, un film qui a été tourné en 1963. Comme vous le savez, d'après le roman d'Alberto Moravia, le film de Godard, Le Mépris, c'était un film avec Piccoli et Bardot. C'était l'histoire, en gros, d'un couple qui se battait ou se débattait, on va dire, à un moment crucial de leur amour, c'est-à-dire celui du désamour. Voilà. Donc c'est un film qui est une tragédie. D'autant que les deux personnages ne comprennent pas très bien pourquoi ils arrivent à ce moment de rupture. Et c'est vrai qu'effectivement, pourquoi l'amour se défait ? Ah, question qui reste évidemment en suspens. Donc Le Mépris de Godard, c'est aussi un moment de cinéma, puisque ça se passe à Cinecittà. Et justement, Fritz Lang est en train de tourner un film, L'Odyssée. Et vous allez entendre Fritz Lang. C'est la raison pour laquelle je vous reparle du Mépris, parce que je vais vous faire entendre donc un extrait du film de Godard, Le Mépris. On va le voir et l'entendre, le voir parce que je vais vous le commenter un petit peu de temps en temps, mais surtout entendre ce film qui, alors vous allez entendre évidemment la voix de Fritz Lang, la voix aussi de Michel Piccoli qui en principe doit réécrire le scénario, et de Procoche qui est le producteur. Ils sont dans une salle de projection où l'on passe les rushs. Vous savez que les rushs, ce sont ces images que l'on fait au moment du tournage et qui sont ensuite projetées dans les salles, vont ensuite dans la salle de montage pour que le monteur puisse filmer ces images. Images et ses sons. Donc vous entendrez également, puisque c'est assez cosmopolite, puisqu'il y a donc l'allemand Fritz Lang, le français Piccoli, Procoche l'américain et Francesca qui est l'italienne, et c'est elle qui traduit en français tous les propos des uns et des autres. Alors je vous propose tout de suite, nous écoutons cette séquence, c'est le chapitre 4 du Mépris de Godard.
What great stuff are we seeing today, Fritz?
Each picture should have a definite point of view, Jerry.
Dans chaque film, il doit y avoir une raison critique.
Here, it's a fight of the individual against the circumstances. The eternal problem of the old Greeks.
Oh, please.
Ici, c'est le problème éternel des anciens Grecs.
I don't know if you're able to understand it, Jerry. I certainly hope you can. It's a fight against the gods.
Là, évidemment, c'est la voix
de Prometheus
et Lang que vous entendez.
C'est le combat contre les dieux, le combat d'Ulysse.
Là, nous passons sur la musique, sur les rushs, c'est-à-dire que l'on voit un gros plan d'un masque blanc avec des yeux bleus. C'est presque le ciel que l'on voit au travers. Là, nous repassons dans la salle de projection avec le projectionniste qui vient regarder de près si tout va bien, si le plan est fait, c'est comme ça que font les projectionnistes. On revient sur les rushs avec la statue de Minerve qui a les yeux rouges, puisque dans Le Mépris, j'ai dû vous en parler, les couleurs jaune, bleu, rouge sont essentielles. La statue pivote sur elle-même. Cadrée en gros plan. Là, nous voyons Piccoli, en gros plan, qui regarde.
C'est la protectrice d'Ulysse.
It's Neptune, the Todfeind von Odysseus.
Et ça, c'est Neptune, son ennemi mortel.
La caméra avance sur Neptune. Donc c'est un montage alterné entre les rushs. C'est des chants contre chants, d'une certaine façon. On revient sur Fritz Lang.
La seconda buona.
Motore.
Partito.
Odissea 701.
Oh, gods. I like gods. I like them very much.
C'est Prokoche qui parle.
Monsieur Prokoche aime les dieux.
I know exactly how they feel.
Il les comprend très bien.
Exactly.
Là, on repasse sur le contre-champ, sur
Jerry,
ce qui est visible, sur l'image.
Don't forget, the gods have not created man. Man has created gods.
Tiens, Homer.
Ce n'est pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux.
Et là, maintenant, nous revoyons les rushs, et il y a une naïade qui danse toute qui nage.
Francesca, what is that?
It's a mermaid, Jerry. C'est une sirène.
Dans l'eau, et c'est Prokoche qui ça l'amuse beaucoup.
Fritz, that's wonderful for you and me, but you think the public is going to understand that?
C'est de l'art, mais est-ce que le public comprendra?
On revoit toujours les images de la nageuse.
Qui est celle-là?
C'est Penelope.
I have a theory about the Odyssey. I think Penelope has been unfaithful.
Monsieur Prokoche a une théorie sur l'Odyssée. Il pense que la femme d'Ulysse était infidèle.
Oh, meine Brüder, wenn ihr nach 100.000 Gefahren
là, c'est la voix
die
de
Grenzen des Okzidents habt erreicht, zögert nicht, den Weg der Sonne folgend, die unbewohnten Welten zu ergründen.
Oh, mes frères, qui à travers 100.000 dangers êtes venus aux confins d'Occident, ne vous refusez pas à faire connaissance en suivant le soleil du monde inhabité.
Apprenez que votre origine, vous n'avez pas été faite pour être, mais pour connaître la science et la vertu.
Grazie.
Prego, signor Lang.
Vous connaissez ça?
Oui, oui, c'est très célèbre. C'est de Dante.
Oui.
Déjà la nuit contemplait les étoiles. Et notre joie se métamorphose vite en pleurs. Jusqu'à ce que la mer se fût refermée sur nous.
Là, nous voyons à nouveau les rushs. Et c'est Ulysse qui sort de la mer et qui gravit un rocher. L'image présente un énorme panorama avec la mer extrêmement calme, panoramique de gauche à droite et qui arrive sur les rochers, en bas desquels il y a une mer turquoise. Et on revient sur la salle de projection. Le noir se fait et on rallume la salle.
Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Prokoche, vous êtes...
Je le sais bien.
C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope.
Oh, ce n'est pas fait pour des hommes. C'est fait pour les serpents, pour les enterrements.
Là, c'est Prokoche qui vient de donner un grand coup de poing dans une pile de boîtes 35 mm.
Would you like to rewrite it, Jerry?
You cheated me, Fritz. That's not what is in that script.
It is. Oh, no.
Get the script, Francesca.
Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Bellini? Ils se disputent pour le scénario?
Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen.
Naturally, because in the script it is written.
Then
on the screen it's pictures. Motion picture, it's called.
Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit.
Pourquoi se lance une bobine de film à travers la salle de projection?
Finally, you get the feel of Greek culture.
J'avais rendez-vous avec ma femme, je vais voir s'il est là.
Stay right there. When I hear the word culture, I bring out my checkbook. Come here.
Some horrible years ago,
les citoyens
disaient revolver au lieu du carnet du chèque.
Prokoche, qui est un producteur, une caricature de producteur, écrit un chèque sur le dos de Francesca. Et il donne le chèque à Piccoli, parce qu'il aimerait bien... qu'il devienne le scénariste.
Est-ce que vous allez accepter le travail? Oui ou non?
Piccoli met le chèque dans sa poche et allume une cigarette.
J'avais das vergessen.
Furchtlos bleibt aber, so muss. Der Mann, einsam vor Gott.
C'est la voix de Fritz Lang.
Die Einfalt ihn und keiner Waffen braucht's und keiner Listen, solange bis Gottes Fehl hilft.
Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège, et il n'a besoin ni d'armes, ni de ruses, jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide.
Très bien.
C'est de Hölderlin, n'est-ce pas, Mr. Lang?
Oui. La vocation du poète. Le dernier vers est très obscur. Hölderlin avait écrit d'abord « Solange der Gott nicht da ist ».
Tant que Dieu ne fait pas défaut.
Et ensuite « Solange der Gott uns nahe ist ».
Tant que Dieu nous demeure proche.
Oui. Vous voyez, la rédaction du dernier vers contredit les deux autres. Ce n'est plus la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu qui rassure l'homme. C'est très étrange. Mais vrai. Comment est-ce qu'on dit étrange en italien?
Strano.
Strano.
S'il Merci.
Vous plaît. Donc là, ils sortent de la salle de projection, les voilà dehors, donc il y a Francesca en tête, puis la monteuse et Fritz Lang. Il est seul, la caméra fait, c'est un plan séquence, Fritz Lang, très distingué, très aristocratique, allume une cigarette, il marche vers la gauche, la caméra le suit. Et le contre-champ, on voit arriver Camille, jouée par Bardot, qui appelle Paul Piccoli. Une voiture rouge arrive entre deux. Ça tombe intéressant, c'est intéressant. C'est évidemment Prokoche dans une voiture rouge. Voiture rouge qui aura son importance dans le film du mépris. Mais je...
Monsieur Prokoche, Camille, ma femme.
Prokoche salue Bardot sans la regarder. On revient sur Fritz Lang qui avance calmement.
Je vous présente ma femme, Camille.
Enchanté, madame. Fritz Lang, vérité.
Bonjour, monsieur.
Tu sais, c'est lui qui a fait le western avec Marlene Dietrich qu'on a vu vendredi soir.
Ah oh, oui, c'est formidable.
Moi, j'aime mieux M.
Le maudit?
Oui.
On l'a vu l'autre jour à la télévision. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Merci bien. C'est bien demandé.
Mais de Rancho de
Francesca!
Quand Mel Ferrer appuie sur la bascule, c'est merveilleux.
Merci. Quand je terminerai.
Let's have a drink at my home. Yes or no?
Monsieur Procoche vous invite chez lui à prendre un verre. Oui ou non?
Je ne sais pas.
She doesn't know.
You know perfectly well.
Il dit que vous le savez très bien.
Voilà, on va arrêter là. Donc voilà, c'est ce que je voulais absolument que vous entendiez, la voix de Fritz Lang. Et donc, vous avez entendu sur la fin, quand Brigitte Bardot lui dit qu'elle aime beaucoup ses films et qu'elle avait beaucoup aimé un film avec Marlène Dietrich, il dit « Moi, ce que je préfère, c'est M le Maudit ». Alors, je pense que tout à l'heure, on écoutera la bande-annonce de film M le Maudit, qui est un film qui a été tourné en 1931. Donc, nous allons y revenir. Mais je voudrais quand même vous parler un petit peu, revenir un petit peu sur Fritz Lang, qui est allemand. Bon, ça, vous le savez, il était né, il a fait des études d'architecture et de peinture. Son père était un grand architecte extrêmement connu. Il était né dans une famille de grande bourgeoisie. Enfin, je ne vais pas dire que ça se voit, mais c'est vrai qu'on voit qu'il a quand même une allure assez formidable. Même quand il fume, ou même quand il se met en colère, et là il se balade toujours avec un monocle en plus. Voilà. Donc il assume complètement. Et donc il fait des études, je vous le disais à l'instant, d'architecture, et il commence sa véritable carrière de réalisateur en 1901 avec des films évidemment muet, puisque vous le savez, le cinéma, il faudra attendre 1927 pour que le cinéma devienne sonore. Alors parmi les films évidemment qu'il a réalisés, très vite ça marche très bien, quoi. Notamment il y a Les Trois Lumières, bon, et puis Le Docteur Mabuse, donc voilà, on commence avec Le Docteur Mabuse, qui est d'ailleurs réalisé en deux parties, et M le Maudit. Alors M le Maudit, c'est un film, on peut dire que c'est un peu, comment dire, on sent quand même qu'il a été très touché par la montée du nazisme. Et donc, dans tous ses films, que ce soit le diabolique Docteur Mabuse que nous avons vu là, l'autre jour à Arte, que ce soit M le Maudit, on sent que c'est toujours une métaphore de la montée du nazisme. C'est un... Et d'ailleurs, M le Maudit, c'est presque même un portrait prémonitoire du tyran. Enfin, on ne peut pas dire que que M le Maudit soit Hitler, mais enfin, en tout cas, ça donne quand même une idée de cette peur qui va s'installer à partir des années 33, bien évidemment. Alors, parmi les films que l'on peut citer, il y a M le Maudit, je vous le disais à l'instant, il y a Métropolis. Là, c'était un drame, c'est un film qui date de 1926, c'est un drame très expressionniste. Alors, qu'est-ce qu'on appelle expressionniste? Eh bien, même dans le film qu'il a réalisé en 1960, il y a encore de l'expressionnisme, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur la peur, sur les effets, sur notamment une lumière extrêmement contrastée, avec des ombres portées sur les murs qui sont... qui double le personnage et qui amène encore un peu plus de peur, évidemment. Donc c'est un drame expressionniste et qui, on peut dire, Métropolis, c'est un film clé de sa carrière, évidemment. Comme j'ai envie de dire, d'ailleurs, beaucoup de films de Fritz Lang. Hein. Et alors, ensuite, il va le faire, Le Testament du docteur Mabuse, qui... bon, là encore, on peut dire qu'il y a un parallélisme entre les pratiques du docteur Mabuse et son réseau criminel avec les agissements nazis. Hein, voilà. Donc c'est quand même très très lié. D'ailleurs, la censure va interdire le film. Et notamment, Goebbels va convoquer Lang. Et voilà, il va lui demander de faire autrement, enfin, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Fritz Lang va finalement quitter Paris. Pardon, va quitter l'Allemagne et va aller à Paris. Il va peut-être pas y rester très longtemps, mais bon, il reste, je crois, qu'une seule année ou très peu parce qu'il va partir aux États-Unis. Et quand il va à Hollywood, il travaille avec le producteur Selznick, hein, donc la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Et en 1935, même, il va prendre la nationalité américaine. Et il va commencer un film Fury en 1936. C'était avec... son nom va m'échapper. Je le vois, mais je me l'entends, comme on dit l'autre, mais je me le vois pas. C'est plutôt je me le vois, mais je me l'entends pas. Oui, Spencer Tracy. Voilà, ça y est. Donc sa filmographie de Fritz Lang est très variée. Il mélange les genres, il fait même un western, puisqu'on l'a évoqué là tout à l'heure avec, dans le film de Godard. Et puis, c'est lui qui fait aussi un film d'aventure, Les Contrebandiers de Moonfleet. Au fond, pour Lang, le cinéma, c'est un moyen d'explorer la part d'ombre de la nature humaine. Et on retrouve d'ailleurs tout au long de son œuvre les thèmes de la cruauté, de la peur, de l'horreur et de la mort. Voilà. Alors ensuite, il va retourner en Allemagne, mais beaucoup plus tard, en 1959. Et c'est là qu'il va faire ses derniers films, et notamment le dernier épisode, j'ai envie de dire, de la saga Mabuse, avec le diabolique docteur Mabuse. Et je le répète, que j'ai trouvé fort intéressant, évidemment. Alors, il s'inspire des scénarios de Thea von Harbou, qui était décédé à l'époque. Et puis ensuite, il va retourner aux États-Unis, mais enfin, il va tourner beaucoup moins. Et là, c'est dans les années 63 qu'il joue son propre rôle dans le film de Godard. Voilà. Et puis, il décédera, il est à Los Angeles, enfin à Beverly Hills. Il décède en 1976. Alors donc c'est un film, je voudrais qu'on revienne sur M le Maudit, parce que c'est une façon de parler évidemment de ce travail considérable qu'il a fait. C'est l'histoire d'un tueur en série, hein. C'est un chef-d'œuvre qui est glaçant de modernité, qui plaît toujours, même aux jeunes, hein, je crois. Et c'est un des premiers films policiers du cinéma. Alors, c'est une petite fille qui, ça commence assez bien, parce que ça, on commence dans une cour d'immeuble avec des enfants, ils font une ronde, il y a une petite fille qui désigne tour à tour ses camarades, vous savez, avec en chantant, là, donc c'est « Attends, attends pour voir, il va bientôt venir, l'homme noir », et clac, quand on touche quelqu'un, il doit sortir, etc., etc. Cette litanie, donc, qui est interrompue par une mère de famille qui est agacée, évidemment, par cette satanée comptine, c'est les comptines, voilà, bourré, bourré, ratagramme, et ben là, c'était « Attends, attends pour voir, il va bientôt venir, l'homme en noir », et ben l'homme en noir, évidemment, c'est voilà, c'est ce que je disais, c'est que comme une préfiguration du monstre que sera Hitler, évidemment. Donc Fritz Lang met en place son intrigue, et puis tout d'un coup un ballon qui rebondit sur l'affiche qui est destinée à avertir les gens du quartier qu'on recherche un tueur d'enfants. Eh bien, ça montre le suspense à son comble, c'est-à-dire que on voit arriver le ballon, on est sur l'affiche, on prévient les enfants, et les enfants continuent à chanter cette comptine, évidemment. Et tout d'un coup arrive cette ombre propre à l'expressionnisme, extrêmement menaçante, et qui entre dans le champ de la caméra. C'est un peu comme un aigle qui fond sur sa proie, et on entend la voix sirupeuse de Beterlon qui se fait entendre « Quel joli ballon !» Et la petite fille abandonne son jeu. Le pire est à venir, c'est-à-dire tout d'un coup, elle sort du champ et elle va suivre ce personnage très étrange, quoi. Donc c'est un film, M le Maudit, qui est inspiré d'une histoire vraie. C'était en effet, il y avait un meurtrier d'enfants qui était d'ailleurs surnommé le vampire de Düsseldorf. Et d'ailleurs, initialement, le film de Fritz Lang devait s'appeler « Les assassins parmi nous », puisque c'est un peu ce que dit l'affiche, voilà. Et bon, mais en même temps, voilà, il a changé le titre, et c'est un film, il a fallu l'autorisation du tournage, c'était pas aussi simple que ça, hein, évidemment. Donc le tueur en série, qui existait vraiment, est Peter Curtin. Il a été condamné en 1931, il a été guillotiné, évidemment. Il a été guillotiné, d'ailleurs, après la sortie du film, hein. Et alors, dans ce film, ce qui est intéressant et d'une grande modernité pour ce film de 1931, c'est que Fritz Lang met place tous les codes du polar et du film à suspense. Et on peut penser que Hitchcock s'en est inspiré terriblement, évidemment, avec notamment, même au niveau des décors, hein, notamment les escaliers à vis, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et puis, tout d'un coup des effets de caméra où à la fois on mélange les travelling et les zooms, c'est-à-dire que on n'en finit pas d'avancer, quoi, et on se rapproche de plus en plus, ce qui crée évidemment une espèce de torpeur qui est... La peur est donnée non pas par le sujet qui est traité, mais par la façon dont il est traité. Là, on est véritablement dans du cinéma, avec Fritz Lang, avec Hitchcock et tous ces gens-là, quoi, là. Et donc, quant au personnage qui joue M le Maudit, eh bien, il a un visage qui est plein de surfroid, il a des yeux exorbités, et là, on peut dire que c'était son plus grand rôle. Et surtout, ce qui est le plus important peut-être dans M le Maudit, c'est cette fameuse chanson, ces petites notes qui sont sifflées comme ça. Alors, on croit que c'est le évidemment M le Maudit qui siffle. En réalité, bon, enfin, ça c'est l'idée du cinéma, c'est Fritz Lang. C'est donc le sifflet que vous entendrez, parce qu'on va s'écouter tout de suite. Stéphane, si tu en es d'accord, on va écouter la bande-annonce de M le Maudit. C'est un air qui est récurrent, et c'est un extrait de Peer Gynt. de Grieg. Voilà, et c'est Fritz Lang lui-même qui siffle et qui sont liés à la silhouette très étrange qui est avec cette épaule. On filme très souvent ce personnage de dos avec sur l'épaule, je crois que c'est à gauche, enfin, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche, le M de M le maudit. On s'écoute tout de suite l'extrait.
Ausschnitte aus dem erregenden, spannenden und aktuellen Kriminalfilm M, den der Regisseur Fritz Lang für die Nero-Produktion geschaffen hat. Die Handlung dieses einzigartigen Kriminalfilms ist von atemberaubender Explosivität. Spannungsgeladen von Anfang bis Ende.
Hallo, was hast du denn? Hallo, Paule! Antworte doch mal! Was ist denn? Ich hab was trotzdem gehört! Was habe ich denn gesagt? Meine Loslassen! Meine Hunde!
Das Resultat, bitte! Das Resultat!
Ich komme nämlich vom Finanzamt.
Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte, der Millionen Menschen einer Stadt terrorisiert? Wo verbirgt er sich? Wie sieht er aus? Wer ist der Mörder? Jeder kann es sein. Jeder ist verdächtig.
Du bist wohl verrückt, du Schweinsknall!
M. Das Meisterwerk auf dem Gebiet des Kriminalfilms mit Otto Wernicke.
Hören Sie mal bloß auf, von der Mitarbeit des Publikums.
Gustav Gründgens.
Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch.
Theodor Loos.
Lassen Sie mal einen Wächter reinkommen.
Theo Lingen. Paul Kemp. Fritz Odemar.
Ist denn schon 3 Uhr?
Peter Lorre. Rosa Valetti.
Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben?
Friedrich Gnas.
Mann, meinte? Ich weiß von nichts, Herr Kommissar.
M. Ein Film, den jeder gesehen haben muss. Wir zeigen diesen spannenden Kriminalfilm demnächst in diesem Theater.
Voilà, c'était donc la bande-annonce du film de M le Maudit de Fritz Lang. Je regrette un peu, on n'a pas entendu la musique dont je vous avais parlé. Bon, enfin, mais en revanche, vous avez un exemple de bande-annonce qui est assez étonnante. C'est-à-dire là, c'est très clair, ça commence bien, ça se développe. On redit qui a réalisé, on cite tous les comédiens. Enfin voilà, c'est vraiment un modèle du genre de ces années-là. Alors, donc de M le Maudit, d'ailleurs, on va dire que l'historien Marc Ferraud, il est le premier à dire que ce film est la représentation, je vous le disais tout à l'heure, de la montée du nazisme en Allemagne. Et il est situé au moment de la République de Weimar, et le film met en évidence ce climat d'insécurité, cette misère et cette peur qui vont pousser l'Allemagne, évidemment, à basculer vers le nazisme. Voilà. Et donc, je pense que Fritz Lang est quand même un réalisateur incontournable, et je suis quand même très content d'avoir pu parler un petit peu de lui. Alors voilà, donc merci Stéphane, et on se retrouve peut-être mercredi prochain. Yeah.